Bienvenue sur le podcast Ma Résolution Coaching. Je suis Fanny Marais, je suis coach depuis 2018, certifiée en intelligence émotionnelle et spécialisée sur le HPI et l'hypersensibilité. J'accompagne des particuliers, des entrepreneurs, des managers, des comités de direction en entreprise dans leurs différentes problématiques de travail. Quand le temps m'en est donné, j'anime aussi ce podcast où je traite de sujets connexes, autour notamment du coaching, de la neurodiversité. Cela peut parfois prendre la forme d'interviews de professionnels ou d'auteurs dont j'ai apprécié les ouvrages. J'ai moi-même écrit deux livres. Le premier, sorti aux éditions Vulbert en 2021, traite de l'hypersensibilité au travail. Quant au second, sorti chez Le Duc en 2022, il concerne les femmes à haut potentiel intellectuel et sensible. Je suis ravie de vous accueillir ici pour un nouvel épisode et je vous remercie pour votre fidélité à ce podcast. Aujourd'hui, je vais aborder au cours de cet épisode une thématique sur laquelle vous avez été nombreux à m'interroger sur les réseaux sociaux, étant donné que j'en parle souvent, car elle m'est chère. Je parle de la notion d'intelligence émotionnelle. En tant qu'accompagnante spécialiste du HPI et de l'hypersensibilité, vous vous doutez que les émotions ont une place prépondérante dans mon travail. Afin de creuser le sujet, je me suis formée pendant le confinement de 2020 avec la boîte américaine qui a fait le plus de recherches sur cette notion d'intelligence émotionnelle. Ces recherches ont débouché sur un modèle de quotient émotionnel scientifiquement backé. Comme je suis formée et certifiée à cet outil, je peux faire passer ce test à des travailleurs indépendants ou à des salariés en entreprise. Et après l'avoir éprouvé des centaines et des centaines de fois, je peux vous dire que cet outil est puissant. Il est tout d'abord complet. Oui, parce que la plupart du temps, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on entend parler de la conscience de ses propres émotions et de la reconnaissance de celles des autres. Mais ceci ne représente que 2 compétences sur 15 du modèle qui ne se contente pas de savoir si vous avez conscience de vos émotions, mais il observe aussi si vous êtes en mesure de vous appuyer sur vos ressentis pour les communiquer, pour manager et donc entrer en relation avec les autres. Il analyse aussi le poids de vos émotions dans votre prise de décision et votre façon de gérer le stress, ce que l'on ne retrouve pas dans d'autres modèles. Une fois que vous avez répondu aux 130 questions du test, il faut environ 20 minutes pour le passer, la personne qui vous fera un débriefing sera en mesure de dépeindre une photographie à l'instant T de votre profil d'intelligence émotionnelle. Et vous verrez que ce qui est important, ce n'est pas vraiment le score, mais plutôt les relations que nous pouvons tracer entre vos différentes compétences comportementales. Vous aurez nécessairement des connexions et des déséquilibres, donc ici, les profils hétérogènes sont légion. Exit les déceptions que j'entends trop fréquemment par suite de la passation du test Weiss pour définir un quotient intellectuel, où des clients-clientes me disent que le ou la professionnelle n'a pas pu analyser son profil pour cause de résultats hétérogènes. Ici, vous verrez que l'hétérogénéité nous apporte énormément de clés de lecture. Je vais y revenir plus loin. Autre avantage, le quotient émotionnel est en mouvement au cours de notre vie. Il est dynamique et non fixe, ce qui nous encourage, si nous le souhaitons, à travailler certaines compétences comportementales qui peuvent nous poser des difficultés dans la vie de tous les jours. On sait que le QI, quotient intellectuel, ne présage pas de notre QE, quotient émotionnel. Ça, c'est a priori assez clair pour tout le monde. Mais je vois aussi de fréquentes confusions qui sont faites sur l'hypersensibilité et le quotient émotionnel. Alors, le quotient émotionnel mesure notre intelligence émotionnelle à partir des 5 échelles suivantes. La perception de soi, l'expression émotionnelle, les relations humaines, la prise de décision et la gestion du stress. Et à chaque échelle, nous allons analyser l'influence des émotions. Or, il semble clair que ce n'est pas parce que nous sommes hautement sensibles que nous savons forcément exprimer nos émotions clairement, que nous sommes à l'aise avec le fait de confronter des points de vue divergents, que nous avons développé une grande confiance en nous, que nous ne sommes pas influencés par le regard d'autrui, etc., etc. Je pourrais continuer encore longtemps. Tout ça pour dire que chaque notion a un sens. L'hypersensibilité désigne le fait de ressentir des émotions avec une forte intensité et caractérise aussi des hyperesthésies, c'est-à-dire une sensorialité élevée au niveau d'un ou de plusieurs de nos cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Certains emploient aussi le terme de haut potentiel émotionnel. Je préfère parler d'intelligence émotionnelle car le concept est clairement défini dans la littérature. Je vous parle d'ailleurs de toutes ces différences dans le livre de Sandrine Rouget, Nuancier de caméléon, si vous voulez vous le procurer. J'en parle aussi bien sûr sur mes comptes Instagram et LinkedIn. Alors, cette précaution d'usage faite, j'aimerais aborder les possibles interfaces entre neurodiversité et intelligence émotionnelle. Comme je le disais à l'instant, ce n'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on a une intelligence émotionnelle développée à tout point de vue. Parfois, c'est même l'inverse. L'IE, l'intelligence émotionnelle, risque d'être faible car le trop grand poids du ressenti des émotions des autres peut nous rendre moins efficaces ou moins rapides dans nos prises de décision, ce qui réduit notre indépendance émotionnelle par exemple. Et vous voyez, c'est en cela que l'hétérogénéité est intéressante dans l'analyse des résultats, car elle permet de mettre en évidence que certaines qualités, poussées à l'extrême, comme une surempathie par exemple, peuvent parfois avoir des effets néfastes sur nos relations de dépendance aux autres. Alors on vient de parler d'hypersensibilité, quid du reste du spectre de la neurodiversité? Je vais laisser de côté la galaxie des 10, DYS, si vous le voulez bien, car ces 10 ont un impact encore différent sur notre façon de travailler. Prenons en revanche ici l'exemple du haut potentiel intellectuel. Une personne HPI, plutôt à l'aise avec ses émotions, aura dans ses résultats une conscience de soi émotionnelle forte. Mais si elle décide de mettre ses émotions sous le tapis, car elle considère qu'elles n'ont pas lieu d'être au travail, son expression émotionnelle se rabasse et il y a de fortes chances que cette personne fasse preuve d'impulsivité. C'est l'effet cocotte-minute des émotions qui débordent comme l'eau qui boue sur laquelle on a mis un couvercle pendant trop longtemps. Seront aussi très certainement impulsives les personnes porteuses de TDAH, trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, c'est ce que désigne le H. Ces personnes vont prendre des décisions souvent rapidement. Et par ailleurs, si leur résolution de problème et leur niveau d'exigence sont élevés, alors vous aurez intérêt à suivre le rythme si vous travaillez dans leurs équipes. Enfin, pour mes amis avec TSA, trouble du spectre autistique, autrefois appelé Asperger, il est quasi systématique dans les résultats que leur flexibilité soit basse, car ils ont un puissant besoin d'immuabilité et sont donc souvent désarçonnés par le changement, l'inconnu, l'imprévu. Ce qui peut faire monter leur niveau de stress finalement en flèche dans les résultats, sauf s'ils sont hyper organisés et qu'ils trouvent des ressources pour compenser avec leur HPI quand ils le sont. Si c'est le cas, d'ailleurs, on les désigne comme des personnes doublement exceptionnelles, twice exceptional en anglais. Et vous voyez, c'est cela qui me passionne dans le fait d'utiliser cet outil. Il me permet de dessiner dans les détails le portrait de la personne qui a passé le test, tout en lui proposant des axes de travail ultérieurs afin d'équilibrer, si nécessaire, son profil. C'est pour moi tout l'intérêt de m'appuyer sur un modèle sous-tendu par des années de recherche que je peux croiser avec mes propres connaissances des profils neuroatypiques que j'accompagne au quotidien. J'espère que cette courte présentation vous aura permis d'y voir plus clair sur cet outil et la façon que j'ai de l'utiliser auprès des profils atypiques, qu'ils aient d'ailleurs conscience de cette atypie ou qu'elle se révèle à eux à travers le modèle. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt. J'espère que cet épisode aura permis de répondre aux questions que vous me posez fréquemment à ce sujet sur les réseaux sociaux. S'il vous a plu, vous pouvez mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi le reposter sur les réseaux sociaux en me taguant. Je suis identifiée soit sous le nom de Fanny Marais, soit sous celui de ma société Marais Solutions Coaching. Je vous dis à bientôt en ligne ou ici pour un futur épisode de podcast.